Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxyjeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour cette interview, je suis accompagné de Kurt. Salut Kurt.
Salut Cyrus.
La forme?
Ça va.
Super. Et nous accueillons aujourd'hui Nico et Ludema du média Punchboard. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors donc, vous êtes tous les deux, si je dis pas de bêtises, des fondateurs donc d'un média jeu de société qui s'appelle Punchboard, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est un média associatif. Donc en fait, moi j'avais la chaîne qui s'appelait Ludema, d'où mon pseudo aujourd'hui. Et Nico, lui, avait la chaîne Crash Test Meeple. Mmh. Et en fait, on avait à peu près la même vision, les mêmes thématiques, etc. Et on s'est dit, bah, cette convergence, elle peut être bien de travailler ensemble. Et ça respectait un peu plus notre idée de ce que doit être un média, de son côté indépendant et de sa manière dont il doit être financé. Donc, ben voilà, ça fait depuis 2023 qu'on est ensemble. Mmh.
Quand vous dites média, juste pour que tout le monde soit d'accord, vous êtes sur quel format?
Alors nous, on fait du format YouTube principalement, mais on a aussi un site internet dont on espère pouvoir faire des articles à un moment ou à un autre.
Et du Twitch.
Et okay. YouTube et du Twitch.
Ok, bah on va revenir sur tout ça ensemble. Avant de commencer l'interview en propre, on vous propose de vous soumettre au fil rouge de cette année. Donc, ce sont quatre petites questions très courtes, vous allez voir, hein, pour l'idée de vous présenter un petit peu très sommairement vous en tant que personne. Je vous propose de répondre chacun l'un après l'autre, hein. Vous avez le droit à chacun à votre réponse, évidemment, sinon, à moins que vous ayez une réponse pour Punchboard, qui sait, je ne sais pas. À vous de voir.
Si vous étiez une mécanique de jeu,
je serais la pose d'ouvrier.
Pose d'ouvrier, pourquoi? Ouais.
Parce que déjà, c'est celle que j'aime le plus et okay. Que je trouve que c'est celle qui a, le plus de possibilités, différentes d'être utilisée. Et surtout, il y a une historique aussi derrière et que j'aime bien.
Okay. Merci Ludema, toi Nico.
C'est surtout son côté gros patron, hein, on va pas se mentir. La programmation, parce que c'est toujours c'est un peu le résumé de ma vie dans le sens que tu prépares des choses et ça se passe jamais comme tu veux. Quoi.
Ah, ok, c'est joli. Et si vous étiez un thème de jeu, lequel seriez-vous?
Je pense que je serais le journalisme. Je pense que c'est ça qui me caractériserait le plus en tant que thème de jeu et qui me plairait le plus.
Mmh, ok, bien. On voit bien le lien, là, pour le coup, hein, avec les médias. Et toi, Nico?
C'est vraiment une question, je sais pas.
Tu veux utiliser un joker ou...
une thématique abstraite, ça?
Thématique abstraite, ouais. Quelque chose d'abstrait, plutôt. Pas de thématique, en fait.
C'est ça.
Ok, d'accord.
Si vous étiez un élément de jeu?
Un meeple.
Un meeple pour les démas?
Oui, un meeple aussi, parce que bon, c'est ce que tu manipules et c'est le sentiment qu'on peut avoir des fois d'être manipulé en permanence.
Ok. Et si vous étiez un jeu, tout simplement?
Alors, pour Ludema, ça va être forcément Tricerion, qui est, je pense, non seulement mon jeu de la vie, mais qui, je trouve, est d'une qualité, d'une réussite à tout niveau, à tout point de vue, aussi bien dans son propos... que dans son édition, que dans ses mécanismes de ce qu'il raconte, etc.
Ok. Et pour toi, Nico?
Tikal, c'est mon plus grand amour en termes ludiques.
Ok. Mais là, vous avez plutôt parlé en sens le jeu que vous aimez, quoi.
Si oui.
Je comprends bien.
Oui, mais si. Ouais. C'est ouais, le seul jeu que je suis pas capable de sortir de ma ludothèque qui sera tout le temps là. Donc, dès que je pense jeu, je pense Tikal, donc forcément.
Ok, très bien. Et merci pour ces réponses. On va passer donc à l'interview. À proprement parler. Alors, on a commencé à présenter un petit peu votre média. Donc, vous avez dit c'est une chaîne YouTube. Il y a du Twitch. Il y a un blog apparemment qui est en préparation. Vous êtes tous les deux uniquement. Vous n'êtes que deux dans Punchboard.
Alors, à l'écran, oui. Mais on a des bénévoles qui nous aident. Et là, notamment, on a Max qui nous a rejoint il y a pas longtemps, qui va s'occuper du montage. Il a du matériel, c'était lui qui avait la chaîne La Focale Ludique, si je me trompe pas.
D'accord.
Et donc voilà, il va s'occuper d'avoir le matériel, de filmer, de nous aider là-dessus. Donc on va pouvoir passer à plus de qualité, du documentaire, des choses un peu plus poussées, puisque là on était limité, une fois de plus, on en revient, mais au budget et à nos compétences aussi, hein, tout simplement.
Alors, Punchboard, ça fonctionne comment ? Vous êtes monté en association ?
Oui, association 1901.
D'accord. Et qui fait quoi au sein de l'association ?
Je suis le trésorier, c'est le président.
Donc Nico, le trésorier, et donc lui, il est mal le président. Okay. Mmh. Il faut pas un secrétaire, il y en a qui double un poste, en gros ?
Oui, c'est moi qui fais le secrétariat en plus. Ouais. Okay.
Et du coup, Max rentrerait aussi dans le bureau
Alors, pour l'instant, il est que au statut bénévole.
D'accord.
On a des adhérents, mais qui sont des bienfaiteurs et des bienfaitrices, qui peuvent participer au vote lors des assemblées. Et pour l'instant, on n'a personne, on est au bureau, je ne sais plus le terme technique, mais en attente d'avoir justement assez de monde pour le CA et le bureau.
D'accord.
Afin de séparer, parce qu'on a des statuts qui nous permettent, donc on est un vrai média, dans le sens où nos statuts permettent d'avoir le CA, le bureau et la partie rédaction. Et tout ça ne peut pas interagir avec les autres, dans le sens, le CA ne peut pas déterminer ce que la rédaction doit ou ne pas dire, etc. quoi.
Ouais, quand il dit vrai média, c'est pas en termes de légitimité, mais en termes de construction de structure.
D'accord, ok. Moi, je comprends cette séparation entre potentiellement les dirigeants, si on peut dire, et les rédacteurs, ceux qui vont rédiger les articles ou les vidéos, rédacteurs au sens très large du terme. Chroniqueur, etc., etc. Et pourquoi du coup vous avez choisi ce statut associatif ? Il y avait d'autres options possibles ?
Bah, le grand capital, donc l'entreprise. Mais on pensait que justement il y a toujours ce côté de quand on pense média au sens large. Moi je pense toujours youtubeur, etc. Mais vous aussi vous êtes un média. Mais nous on a un peu ce prisme de par nos vidéos de regarder ça. Et il y a toujours ce truc de se dire en fait. Ils veulent quelque chose, ils veulent plus de vues, ils veulent plus de boîtes, ils veulent plus d'argent, etc. Le fait d'être en association nous enlève un peu ça. C'est-à-dire que nous, ce qui compte, c'est les adhérents, en fait, c'est les dons. Donc qu'on fasse 300 vues ou 10 000 ou 20 000, ça n'a aucune espèce d'importance. Pour nous, ce qui compte, c'est que les gens qui ont regardé la vidéo aient été satisfaits. Donc ça nous enlève le côté, on doit faire des vues, et donc on doit parler de tels sujets, et faire des sujets ou des vidéos qui ne sont pas avec notre ADN.
Puis il y avait aussi l'idée de pas avoir quelqu'un à la tête du média, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige, et d'avoir plutôt un média qui appartient aux gens qui le font vivre.
Quoi. Ok. Et vous présentez donc Punchboard comme un média indépendant. Ça a l'air d'être quand même un mot important pour vous. Comment vous définissez ça ? Comment vous matérialisez ?
En fait, on n'a pas de lien avec les éditeurs ou qui que ce soit dans le monde du jeu, les distributeurs et tout ça. C'est pour ça que on fait la démarche de ne pas prendre de boîte et pour voir si on doit sortir une information ou quelque chose comme ça, qu'on puisse pas nous reprocher. Oui, mais vous les connaissez ou vous êtes en lien avec eux ou ils vous donnent de l'argent. Donc nous, on voulait vraiment pouvoir parler de tous les sujets en toute liberté sans pouvoir se faire taper dessus par quelqu'un, quoi.
En fait, la définition même, c'est de se dire que pour les vidéos YouTube, par exemple, elles sont pas monétisées parce qu'on considère qu'on maîtrise pas les pubs que YouTube pourrait mettre et on veut pas que notre audience non plus soit impactée par ça. Donc, il y a pas de pub sur YouTube, il y a pas de monétisation, il y a pas de pub dans nos vidéos au sens que les, parce que critiquer l'objet même. De ceux qui vont financer notre média, ça sera un peu bizarre quand même. Donc ça non plus. Donc ça nous laisse que les dons. Et les dons sont défiscalisés. Donc en plus, il y a un côté et 100% des sommes qui nous sont versées, on les reçoit. Ça passe pas comme d'autres médias par des plateformes, genre Tipeee, Ko-fi, etc. Où là, il y a quand même une entreprise, souvent qui a des parfois qui vend des armes ou je ne sais quoi, et donc qui récupère de l'argent en partie. Donc nous, c'est ce côté où on s'est dit c'est le plus honnête possible, et puis voilà.
D'accord. Et tu vois d'autres médias comme ça qui existent, qui ont cette pratique
associative et indépendante. Alors dans le YouTube, je pense pas, mais dans les milieux podcast, etc. Je pense que vous êtes plutôt sur le ce système-là associatif, etc. Donc oui, heureusement que tout le monde n'est pas corrompu entre guillemets.
Mais précise peut-être dans le YouTube ludique, parce que oui. dans le YouTube plus large,
il doit y en avoir.
Il doit y en avoir.
Alors, vous dites explorer la culture au sens large et les jeux en particulier. Ça dépasse le jeu de société?
Oui. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait pas faire de la parler que de, du jeu, de comment le jeu se développe, mais ce qui nous intéresse, c'est l'objet jeu. Comment est-ce qu'il est véhiculé? Comment est-ce qu'il est vu? Comment est-ce qu'il est partagé? Quels sont les impacts qu'il a en fait sur la société et quels sont les impacts de la société sur sur l'objet? Et souvent, l'intérêt, on porte plus d'intérêt sur le propos du jeu à la limite que sur son fonctionnement. Et en ça, on voulait un petit peu se démarquer du classique, ce qu'on peut trouver justement dans le YouTube ludique, c'est-à-dire présentation, critique, explication de règles, pour pouvoir justement parler de toutes sortes de jeux déjà, et aussi pouvoir justement en termes d'information autant s'intéresser à la distribution qu'à la localisation, que à tout ce qui entoure le produit jeu. Et tu vois, par exemple, sur le salon, on a croisé 2-3 auteurs et on était, moi j'étais interloqué de voir que moi je leur pose souvent la question de est-ce que c'est la mécanique ou la thématique qui vous est venue en premier, ou pourquoi cette mécanique-là par rapport à cette thématique. Et souvent ils me regardent et ils me disent mais c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude qu'on nous pose, quoi. Et pourtant dans un jeu ça paraît essentiel, tu vois, parce que un jeu, alors je sais que ça fait pas souvent plaisir parce qu'on voudrait qu'un jeu ça soit pas politique, mais un jeu ça parle forcément, ça véhicule des choses, ça véhicule des idées. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui en fait un média intéressant.
Oui, ben en fait on pourrait même résumer tout ça à dire que nous on considère pas le jeu comme un produit commercial, donc on n'en parle jamais sous cet angle-là, c'est-à-dire pour faire du conseil, hein, de la recommandation, voici ce que vous devez acheter, etc. Nous, on se concentre plutôt justement sur l'objet culturel, et pour dire que le jeu de société est culturel, il faut parler de culture pour que ça soit associé à. Et en fait, on se rend compte que c'est le cas.
Et même quand on va parler de commercialisation ou de façon dont c'est plutôt pour parler de comment c'est fait, comment c'est impacté et pourquoi ça évolue dans ce sens-là.
D'accord, ça tombe bien que vous parliez des jeux comme outils culturels, justement. Pour vous, ça se traduit comment?
Ça se traduit par déjà sa fonction. Le jeu est millénaire, on pense même qu'il est très certainement apparu avec l'homme. Donc, il a une fonction déjà dans la manière dont on évolue. Quand je parle d'évolution, c'est de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Donc, il est déjà dans notre culture, en fait. Ensuite, il a des fonctions au cours de son histoire. Il a toujours eu des fonctions aussi bien sociales que culturelles. Dans le sens, soit il a servi de communication pour des fois du troc, pour des choses comme ça, pour éviter des guerres, etc. On a aussi sa fonction en termes de ce qu'il propose comme vision du monde à certains moments, puisqu'il est aussi contextualisé dans l'époque où il sort. Il dit des choses, parfois il a un vrai propos, soit politique au sens de je veux, comment dire, de militant, je veux dire, mais des fois c'est juste un propos politique, même inavoué ou irréfléchi, mais politique parce que il fait circuler aussi des émotions autour d'une table, etc. Et puis il s'inscrit dans une culture plus large, sans être dans le licensing, ce qu'on voit aujourd'hui, mais dans une culture tout simplement parce que on peut reprendre, si on prend le Monopoly, c'est des personnages, enfin le Monsieur Monopoly, je pense que c'est une des personnalités ludiques les plus connues au monde, etc. Maintenant, il y a le Meeple, donc tout ça, ça fait partie, ça a intégré la culture directement, quoi.
On peut peut-être maintenant regarder comment vous traitez un peu tout ça. Vous avez des formats types chez Punchboard?
Alors, qui dure 10 jours, mais oui. Non, on a un format maintenant qui s'est un peu démocratisé, qui est un live par semaine sur lequel on va traiter de l'actu au sens large, de l'actu soit ludique, soit donc stricto ludique, soit de l'actu générale, sociétale, et qu'on va relier au ludique, c'est-à-dire se dire tiens, il est en train de se passer ça dans le monde ou dans notre société, à quel point ça va impacter ou ça peut impacter notre secteur. Très souvent, la plupart des sujets qui sortent en ce moment en vidéo, par exemple, c'est souvent des choses qu'on a traitées il y a 2 mois, 3 mois ou 4 mois, parce qu'en fait, c'était déjà dans les médias. Nous, on n'invente rien comme ça. Hein. On lit juste la presse généraliste ou spécialisé. Et cette presse, en fait, elle nous annonce déjà, il y a déjà des articles qui nous montrent ce qu'il y a. Et dans ce format-là, on parle de ça, puis après on parle un peu de culture. Et à la fin, on fait des petites recommandations aussi sur d'autres podcasts, blogs, ou séries, ou articles à lire. Quoi.
Qui ont traité du sujet, du coup, c'est ça? Qui ont traité du sujet
pas
dont
forcément
vous avez parlé.
Sur des choses qui nous ont plu dans la semaine, des séries, des choses comme ça. Mais dans le format, on a aussi... on aime bien mettre des dossiers, tu vois, pour pouvoir travailler. Par exemple, on avait fait toute une vidéo sur la thérapie, le jeu, et comment on pourrait utiliser certains jeux comme outil pour dans certains cas, tu vois. Ou dernièrement, c'est là où on va rejoindre un petit peu l'actualité. Dernièrement, j'ai traité Cozy Stickerville, mais pas sous la présentation du jeu, mais plutôt sur pourquoi est-ce que les gens aiment les jeux cozy, quoi. Donc ça va souvent être en fait. On fait soit de la news pour de la news, soit du dossier qu'on va beaucoup plus étayer.
Ou des interviews, on essaye de toujours trouver soit des personnalités qu'on ne voit pas ailleurs, soit des angles, on va les inviter pour avoir des angles qu'on ne voit pas ailleurs. Et par exemple, on a traité avec deux chercheurs couvertures de jeux qui sont utilisées dans l'histoire, donc l'Antiquité et le Moyen-Âge, et avec eux, ils avaient étudié tout ça et fait comptabiliser, voir ce qui était représenté, justement, on parlait de culture, quelles étaient les représentations qui étaient systématiquement utilisées pour ces couvertures, et de se rendre compte qu'en fait, par exemple, le Moyen-Âge ou même l'Antiquité, qui est millénaire aussi, était souvent résumé à juste Cléopâtre et une pyramide, quoi.
Et après, tu as un deuxième format sur certains sujets qui demandent plus de recherche. Tu vois, par exemple, Jérémy dernièrement a traité toute la polémique autour de Fachorama. Bon, bah là, ça va prendre une vidéo montée, écrite, beaucoup plus détaillée, quoi.
Là, c'est pas du live, du coup, c'est vraiment plus quelque chose de travaillé avant, mais mis en vidéo malgré tout.
Oui, parce que le sujet étant assez dense, il demande une structure.
Et justement, au niveau de la forme, donc vos vidéos sont toujours très sobres, il n'y a pas de décor, une personne face caméra. Pourquoi ce choix?
Parce qu'on n'a pas le choix, justement. C'est l'inverse du
moyen.
La prochaine vidéo qui va arriver, une des prochaines, c'est sur l'effet Mathieu, et qui a un effet qui, en gros, pour schématiser rapidement, c'est plus t'es riche, plus t'es riche, et plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. Mais pourquoi cet effet est démultiplié dans le monde ludique? Cette vidéo, justement, elle va être montée par Max. Donc, il y a toujours moi, forcément, face caméra, parce que j'ai que ça. Et d'ailleurs, on voit, si je mets... je peux pas trop reculer la chaise, parce que j'ai pas de place, etc. Mais avec le montage, ça va donner vraiment du corps à ce que je raconte, mettre en phase des éléments, etc.
Contextualiser avec des images, tu veux dire?
Exactement. Et des effets, etc. Donc, voilà, là, c'est... On va upgrader, mais oui, on est limité. Une fois de plus, c'est toujours pareil hein, pour tout le monde. Il faut des sous.
Puis les gens se rendent pas forcément compte de ce que ça prend du temps de montage. Sur la chaîne, j'ai fait une vidéo sur le personnage de Silk qui était sorti sous Marvel Champions où j'avais étudié toutes les cartes. Et donc là, il y a du montage. J'étais allé chercher des pages de comics. Je suis allé chercher tout ça. Et tu vois, la vidéo, elle fait à peu près 2 heures quelque chose. Et en termes de montage, c'est une vidéo qui m'a pris quasiment 15 jours juste à monter.
Ouais, c'est conséquent, effectivement.
Alors, dans un milieu passionné comme le jeu de société, est-ce que la critique est bien acceptée?
Alors, il faut d'abord définir ce qu'est la critique, parce que à l'heure actuelle, je trouve pas qu'il y ait vraiment de vraies critiques. Alors, j'ai pas tout consulté sur YouTube, hein, peut-être que quelqu'un pourrait me sortir une vidéo, mais la plupart du temps, ça ressemble plus à des avis qu'à de la critique, comme tu peux avoir dans le cinéma, dans le livre, ou les choses comme ça. Et c'est marrant parce que les gens, quand on dit ça, ils ont souvent l'impression que on est en train d'insulter. C'est pas vrai. Non, c'est bien d'avoir des avis. Et souvent, les gens, c'est ce qu'ils recherchent, tu vois. Mais la critique négative est pas toujours très bien acceptée. Et c'est dommage, parce que depuis qu'on est tout petit, on nous répète que la critique constructive, ça aide à avancer. Même nous, quand on reçoit de la critique, on réagit pas toujours positivement. Alors, quand on parle à un éditeur, qu'on lui dit, là, dans ce jeu, ce matériel, là, ou ça, moi, je peux comprendre que sa première réaction, elle soit pas forcément positive, tu vois. Et alors que en fait c'est pas une critique de l'ensemble de l'œuvre, tu vois. Et malheureusement souvent les gens ils vont avoir surtout le monde ludique, tu vois ça. dès que tu mets une critique sur un jeu, c'est par exemple, tu peux critiquer juste le matériel et dire que le jeu est très bien, mais pour eux, d'un seul coup, tu viens de descendre le jeu en flèche. Donc non, elle est pas bien acceptée, quoi.
Et donc justement, à ce propos, est-ce que vous vous auto-censurez, donc en aval, donc au moment de l'écriture, etc. Parce que même des fois, vous avez eu des vidéos que vous avez finies ou presque finies, vous vous êtes dit non.
Non.
Non, on assume.
Ouais.
Non, parce que justement, quand on parle de critique, on entend toujours comme si c'était des reproches ou négatifs. Une critique, c'est pas du tout ça. Une critique, c'est plutôt analyser une œuvre, la contextualiser, expliquer ou tenter d'expliquer notre regard sur l'œuvre, parce que ça veut pas dire qu'on ait raison, etc. Nous, on n'a pas le regard justement commercial, donc forcément, parfois, on va taper peut-être là où ça va faire mal, parce que on va aller gratter, on va aller chercher. À l'inverse, quand la critique est plutôt enjouée, ça fait plaisir et l'auteur est très heureux, etc. Mais on peut dire, pour nous, ce qui est plutôt le tabou ultime, c'est plutôt les médias. C'est-à-dire, moi, je suis plutôt un amateur depuis toujours de arrêt sur image, et donc j'ai cette habitude de la critique des médias, des autres médias. Et je considère que, parce que j'aime le loisir ludique, que les médias ont un rôle à jouer. Donc, il faut aussi pouvoir les critiquer, les analyser, voir ce qui est bien et ce qui est moins bien. Donc, c'est plutôt là, je pense, actuellement, qu'il y a le tabou.
Mais quelque part, il faut avoir de l'ego déjà pour se mettre sa voix et son visage sur YouTube, tu vois. Mais oui, effectivement, et puis c'est pas que dans le monde ludique. Hein, l'ego du YouTuber est toujours assez enclin à ne pas accepter que de se faire critiquer. Quoi. Et tu vois, on avait eu par exemple, il y a eu toute la polémique sur la fameuse loi influenceur là. Et ça m'est arrivé dans des discussions avec d'autres collègues de leur dire, tu sais, ça te coûte rien de respecter la loi, tu vois. Tout de suite, on s'est fait qualifier de police de YouTube ou trucs comme ça. Alors moi, j'étais juste en mode, non, c'est les gars, c'est vous faites ce que vous voulez. La loi, c'est juste, c'est qu'elle est là, tu vois. Mais voilà, c'est d'un seul coup, c'est t'as un peu le côté où la personne juste tu lui soulèves un petit point, elle a l'impression que tout son travail s'effondre et t'as critiqué tout l'ensemble de son œuvre.
Pour vous, on peut être indépendant, c'est possible d'être indépendant dans un milieu si petit.
Oui.
Alors, oui et non. C'est possible, c'est compliqué, mais ça dépend des sujets que tu traites. Parce que à partir du moment où tu veux faire des sujets de fond, il te faut quand même avoir un réseau, et on en revient à ce qu'on a déjà eu comme discussion en dehors du monde ludique, hein, mais qui était pour les journalistes politiques, qui devaient manger ou pas avec les fameux politiques sur lesquels ils devaient faire des articles. Donc en fait, c'est un oui et non, c'est-à-dire que forcément, ça crée des amitiés, on est humain, on se rencontre, donc fatalement, il y a un moment où ça c'est compliqué. Parce que il y a des affaires qui sortent, il y a des sujets compliqués, il y a le côté un peu naïf et bisounours du monde du jeu qui est très agréable et très chouette, et puis il y a le côté moins chouette parce que c'est un monde où la finance compte de plus en plus, la centralisation de plus en plus, les affaires sociales, qu'elles soient politiques, on le voit aujourd'hui tout est tendu, mais aussi les violences sexuelles et sexistes. Donc en fait, parfois on le sait, hein, c'est des agresseurs sont partout, ça peut être n'importe qui, donc parfois même dans les gens qu'on peut côtoyer ou qu'on a côtoyé, et là, ça pose des questions compliquées, quoi.
Et justement, ça tombe très bien que tu parles de ça, c'était le prochain sujet qu'on comptait aborder. Dans le milieu du jeu, il arrive que des controverses émergent. Comment vous décidez qu'un sujet mérite d'être traité publiquement ?
Alors, la première chose, c'est comment on peut le traiter, c'est-à-dire... Est-ce qu'on a les éléments suffisants pour le traiter ? Parce que il y a plein de controverses qui émergent. Tout ne mérite pas ou tout n'est pas suffisamment documenté. Moi, par exemple, j'envoie souvent des questions aux gens concernés. C'est le contradictoire, ce qu'on appelle. Et j'ai très rarement des réponses. Donc, souvent, y a un moment, tu dis « Ok, je pars sur ce sujet ». J'y passe du temps, des semaines, et puis je m'arrête parce que je peux pas aller plus loin. On a des responsabilités en tant que média. Alors je mets des gros guillemets, vous les voyez pas, mais ils y sont. Journalistique. On essaye d'avoir un travail journalistique. On ne l'est pas, on n'est pas journaliste, on n'a pas la formation. mais on essaye de respecter le plus possible. Ça veut donc dire que on peut pas tout dire. Même si on le sait, même si on est sûr, on peut pas le dire si on peut pas le confirmer avec plusieurs sources, etc. Donc ça va limiter notre travail, et ensuite on va voir, ben, est-ce que c'est un intérêt pour le monde du jeu, c'est-à-dire qu'apporte cette polémique. Il faut pas juste, si c'est juste pour dire ah les gens sont pas contents, bah quel est l'intérêt? Donc par exemple, si on reprend ce que disait Nico tout à l'heure sur Fachorama, j'ai pas seulement expliqué la polémique en essayant d'être le plus équilibré possible, c'est-à-dire en expliquant les points de vue des deux personnes, enfin des deux points de vue opposés, je veux dire, mais aussi ce qui s'est passé, quelles sont les conséquences du fait qu'un premier ministre, un ministre de l'Intérieur, pardon, porte plainte contre un jeu de société. Donc ça veut dire qu'aussi peut-être des jeux de société futurs qui auraient d'autres sujets pourraient se retrouver dans la même situation. Et à la fin, j'explique pourquoi le jeu qui est donc cité est un jeu des sept familles, en tout cas un dérivé, et pourquoi en fait dans les sept familles, si on remonte aux origines, c'est de la caricature. Donc en fait, dans la culture, il y a aussi le fait que ce jeu-là, cette mécanique-là, c'est pas innocent, elle veut dire quelque chose. Donc on essaye d'avoir toute cette démarche-là, quoi.
Ouais, il y a quand même un pan qu'il a oublié, qui est important. C'est, est-ce que t'es prêt aussi à assumer d'avoir traité ce sujet-là? Parce que tu vois, par exemple, dernièrement, on a traité l'affiche du festival belge Troll et Fées, ou quelque chose comme ça. Hein.
Bon, Troll et légendes.
Troll et légendes, ouais. Je savais que
l'affiche illustrée par Olivier Ledroit qui a fait une polémique sexiste parce qu'il y avait une femme dévêtue dessus, c'est celle-là.
C'est ça. Je savais que en traitant le sujet, j'allais avoir droit à toute une série de commentaires dégueulasses à lire, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc quelque part, il faut que tu te dises toi-même, ok, si je traite ça, il va y avoir ça qui va se produire. Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je suis capable d'encaisser ça ou pas? Et parce que souvent, la santé mentale du journaliste ou du youtubeur, elle est pas prise en compte. Mais c'est important de le faire, notamment à nous de traiter notre propre santé, quoi. Parce que ça peut être très vite très compliqué, quoi.
Voilà. Malgré tout, on traite quand même tous les sujets qu'on veut traiter. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis un sujet de côté. On n'a jamais pas publié une vidéo. Voilà. Par contre, ça m'est arrivé de retravailler une vidéo. Par exemple, on fait un live, et après le live, avant de le remettre en ligne en replay, ça m'est arrivé de couper une séquence et de la refaire, parce que la différence entre la vidéo écrite, scriptée, et la différence en live, c'est que parfois en live, eh ben, on oublie quelque chose, on inverse des pensées. Ça peut arriver que ce qu'on voulait dire, en fait, on dise complètement l'inverse, on oublie nos mots, etc. Et donc, quand je suis pas satisfait, je me dis, ah là, le message que je voulais faire passer, il est mal passé, je le refais, quoi.
C'est signalé, par contre, et on peut aussi traiter des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Alors, par exemple, sur Fachorama, il y a tout un pan où je suis pas d'accord avec Jérémy, donc je l'ai laissé traiter la vidéo plutôt que de l'avoir en live où ça aurait amené une discussion qui aurait pas été intéressante, tu vois.
J'aimerais qu'on aborde un point très important qui là touche la loi, en fait. Qu'en est-il de la présomption d'innocence?
Ah ben, on est obligé de la signaler. C'est obligatoire. Malgré tout, si on a les éléments pour, on peut en discuter. C'est jamais une problématique. Mais par exemple, en ce moment, il y a des affaires qui circulent. Ben, on peut pas en parler. Parce que on peut pas, moi, je peux le dire, par exemple, j'ai contacté des préfets, des tribunaux, pour avoir des confirmations dont je savais qu'elles étaient justes, puisque les deux parties me l'avaient confirmé. Malgré tout, sans cette troisième source, si je puis dire, je peux pas le sortir, je peux pas en parler. Et pareil pour la présomption d'innocence, on est obligé de le signaler, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler du sujet.
Tout à fait.
Parce que
c'est un statut juridique, hein, la présomption d'innocence, c'est un statut légal, c'est vu par la loi. Ça, alors, comme dit Jérémy, c'est tu ne peux pas accuser sans preuve quelqu'un, et même si tu fais une accusation, faut que la personne puisse se défendre. Et tout ça se passe devant la loi. Maintenant, et c'est souvent le sujet que tu vas avoir dans le pourquoi est-ce qu'il faut croire les victimes, c'est pas parce qu'on met de côté la présomption d'innocence. C'est plutôt que pour que les victimes puissent s'exprimer et encouragent les autres victimes à s'exprimer, faut que la parole elle soit accueillie, elle soit recueillie. Et si jamais d'entrée de jeu elle est tout de suite braquée, ciblée, attaquée, il faut pas s'étonner qu'on se retrouve dans une culture où les victimes ne parlent pas.
D'ailleurs, on peut préciser que la présomption d'innocence ne s'applique que quand il y a quand il y a une plainte et que ça se met en place le juridique. Pardon, hein, je perds mes mots. Vous voyez pourquoi le live c'est l'enfer. Et mais donc voilà, donc ça veut dire que en dehors d'un dépôt de plainte et d'une mise en place juridique, d'un suivi juridique, il n'y a pas de présomption d'innocence. Par contre, là, on rentre dans de la diffamation, des choses comme ça. Donc, de toute façon, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit, et ça, là-dessus, moi, on est plutôt très attentif. Ouais. Et moi, j'ai aussi un côté où je fais très attention à certains mots ou termes, parce que quand on fait des vidéos, si tu utilises le mauvais mot à un mauvais moment, les gens décrochent immédiatement et vont en commentaire. Et en fait, ils écoutent plus ton propos que tu vas développer derrière. Et donc, dans ce cas-là, t'as raté ta vidéo qui était de transmettre un message. Qui nous, d'ailleurs, chez nous, c'est on ne veut pas que les gens... on veut pas leur dire quoi penser. On veut leur donner les éléments pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion et leur propre pensée.
Punchboard, c'est pas un tribunal populaire. On n'est pas là pour pointer du doigt les gens en disant non. Tu vois, par exemple, quand on a fait la polémique autour de Codename Harry Potter, notre objectif était ni de condamner ceux qui étaient pour, ni de condamner ceux qui étaient contre. C'était d'expliquer la polémique, d'expliquer pourquoi il y avait une polémique, quelle était la problématique et tout ça, et permettre à l'auditoire, par la suite, de se faire son propre avis sur le sujet. Cette espèce de neutralité journalistique qu'on demande la plupart du temps aux médias. Nous, on est là pour rapporter la nouvelle, et non pour dire oui, on a raison, et eux, c'est le camp des méchants. Tu vois. C'est ça. On n'est pas un tribunal populaire.
Est-ce que quand même vous ressentez une pression à être les premiers à aborder un sujet, ou c'est pas grave, vous l'aborderez quand même ?
Non, il n'y a pas de pression là-dessus sur être le premier. Nous, ce qui compte plutôt, c'est de bien le traiter. Par exemple, Fashorama, la vidéo date au moment où on enregistre, donc on est au Fige 2026, elle date d'une semaine, je crois. L'affaire Fashorama, ou en tout cas la polémique, c'est début décembre, mi-décembre 2025. Donc non, c'est pas une question d'être là-dessus. Évidemment qu'il y a un côté, et là pour le coup c'est que moi qui vais en parler, l'UDEMA, il y a un côté un peu égo, de se dire, ben on a vu quelque chose avant tout le monde, on a fait une analyse, et parfois il y a ce côté, ah ben tout à coup ça émerge dans le milieu, c'est-à-dire que tout le monde commence à en parler, à dire, ah ça on l'avait pas vu venir, c'est le sujet du moment, et de se dire, bah merde, nous ça fait 3 mois que le fait. Mais ça c'est qu'un problème d'ego personnel.
Non, il y a une petite frustration des fois à te rendre compte que on te pique tes sujets et qu'on te cite pas, tu sais, alors que juste la petite mention de ça ferait plaisir le remerciement, quoi.
Est-ce que vous trouvez que la communauté ludique est prête à entendre tout ce que vous faites, typiquement quand vous traitez des sujets comme ça, vous trouvez un auditoire, vous trouvez plutôt un rebutoire?
Non, il y a une partie de la communauté qui évolue. Alors, il y a toujours une partie de la communauté pour qui un jeu c'est un jeu et ils veulent pas qu'on parle d'autre chose que de consommation, et c'est correct, tu vois, ils ont le droit d'exister comme tout le monde. Il y a toujours une partie de la communauté qui est un peu réfractaire, sinon et certaines chaînes ne marcheraient pas, tu vois. Mais c'est le principe, c'est que c'est reste une communauté, c'est une société dans la société qui joue à des jeux de société, tu vois. Donc inévitablement, elle est impactée par cette société et elle évolue. Et tu vois, on s'est arrêté hier au stand de... Comment il s'appelle ?
Safe in Game.
Bon, bah, c'est intéressant de voir comment elles arrivent à aborder les gens, et les gens sont ouverts, elles arrivent à discuter et tout ça. Donc tu sens quand même qu'il y a un potentiel d'évolution, parce que ça reste une micro-société dans la société composée de gens de la société. Maintenant, c'est de voir quel pourcentage ils représentent par rapport à l'autre. C'est peut-être pour ça que des fois... Ou alors c'est nous qui avons tendance à trop nous intéresser sur les... trop nous arrêter sur les commentaires négatifs, et on a l'impression qu'elle n'évolue pas, alors que non, elle évolue, quoi.
Oui, on focalise sur le négatif et pas sur le positif. Il y a aussi des gens qui reçoivent correctement ce que vous avez à raconter, tous ces sujets qui sont inconfortables, j'ai envie de dire, mais qui sont prêts à entendre qu'ils existent, quoi.
C'est ce que l'UDEMA disait hier, tu vois. Alors, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais c'est vrai, Cannes, c'est une dose d'amour, parce que c'est là où tu te balades dans les couloirs et tu rencontres des gens qui t'arrêtent en disant, ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, on suit vos vidéos. En un moment donné, on est en train de marcher dans un couloir et je sens comme une présence entre lui et moi, et c'était quelqu'un qui nous écoutait, qui voulait juste nous dire merci pour les podcasts, ça lui faisait du bien de nous écouter et tout ça. Et Donc ils sont là, tu vois. Sinon ils viendraient pas nous interpeller, tu vois.
Ouais. Oui, ça fait plaisir. Surtout que, enfin, j'imagine que c'est quand même un énorme temps investi. Alors, vous avez commencé à nous en parler. Des vidéos qui prennent 15 jours à monter pour 2 heures. Tu nous dis, toi, Ludéma, tu nous disais que tu traitais les sujets, que ça demandait de l'analyse, d'enquêter. Oui, je peux dire enquêter en fait. Hein. Tu vas interroger des gens à gauche à droite.
Oui.
C'est beaucoup de temps.
Oui, c'est ça. C'est de la recherche. Parfois c'est des mails. Il y a un peu cette frustration d'attendre des retours que des fois on n'a pas. Il y a ce qu'on appelle l'OSINT aussi pour aller faire des recherches. Donc c'est surtout ce qui est les bases de données libres d'accès, données par les États, etc. Donc on va chercher des infos, on essaye de corroborer des choses. Et puis après il y a le côté analyse, il y a le côté écriture. Moi j'ai tendance à beaucoup réfléchir les vidéos. Donc souvent il y a des sujets qui, au moment où j'ai envie de les faire, ça va aller vite. Mais je les ai depuis quelques semaines, quelques mois, soit dans les discussions, soit en tête. Ça me travaille. Comme je lis beaucoup la presse parce que j'aime ça, ben aussi ça me nourrit de voir que dans tel secteur économique, dans tel milieu, il se passe ça. Et je me dis, ah ben oui, en fait, eux, comment ils réfléchissent leur secteur, ça fait sens et d'un coup, ça débloque des choses dans la réflexion. Donc oui, c'est beaucoup de travail, mais pour tout, parce que un média, c'est pas que ce qui est visible. C'est pas que les vidéos, par exemple, l'écriture, le montage, mais c'est aussi, on a dit, on est une asso, donc il faut faire les comptes, faut faire de la communication aussi pour trouver comment se financer, demander aux gens de faire des dons, faut organiser des événements, faut se déplacer, etc. Quoi.
Vous estimez que ça vous prend combien de temps dans votre vie aujourd'hui, Punchboard?
Alors moi, c'est plus qu'un temps plein.
Plus qu'un temps plein?
Ouais, ça me prend beaucoup de temps.
Et toi, Nico?
C'est un petit temps partiel quand même. C'est, Jérémy fait quand même une grosse partie du boulot. Moi, j'ai un boulot à côté et en plus j'ai 2 enfants en état d'handicap, donc j'ai beaucoup de temps qui est monopolisé.
Ok. Donc ça veut dire toi, Nico, tu as un boulot à côté.
Ouais.
Il y a un lien d'une façon ou d'une autre avec le milieu. Alors, du jeu, les médias.
Normalement, je suis intervenant en psychothérapie, mais là, j'avais besoin d'une petite pause. Et donc je connais un ami qui a une boutique de jeux, donc là oui, je fais de la manutention dans une boutique de jeux.
D'accord. Mais, ok. Et toi, Ludéma, donc tu travailles pas?
Non.
Enfin,
je travaille pas dans l'association aussi, mais
oui.
Je suis bénévole. Pardon. Dans une association. Non, j'ai pas d'activité salariée.
Okay.
Je suis en, comment on appelle ça, en invalidité. Voilà.
Ok, d'accord. Et donc, t'as bossé dans quel domaine précédemment? Il me semble que t'avais bossé un moment dans la boutique du passe-temps.
J'ai bossé chez Blue Cocker.
Ouais.
J'ai bossé dans une autre boutique Jeux du Monde. J'ai bossé à C'est le Jeu. Et au passe-temps, ouais, j'ai fait donc conseiller en boutique aux périodes de fêtes. Et j'ai aussi travaillé sur la chaîne YouTube pendant 8 mois, où c'est un peu moi qui ai à ce moment-là développé le côté. Rendre le côté commercial de la chaîne, d'aller chercher des personnes, de dire ben voilà, une vidéo ça coûte tant, on veut upgrader la chose, donc voilà, c'est le moment où il y a eu l'arrêt des vidéos du mois, etc.
Ok, d'accord.
Et donc vous nous avez déjà parlé du financement de Punchboard, comment ça fonctionne. Est-ce qu'à terme vous pourriez chercher à vous rémunérer via, en faire vraiment comme toi une activité à temps plein, mais rémunérée?
Alors ça serait bien. Je pense que ça commencera d'abord par pouvoir rémunérer des journalistes ou des pigistes, parce que on aime bien ça. Rémunérer les gens, c'est quand même mieux. Mais si par exemple j'organise en juin le premier festival des médias ludiques, il y a une affiche et l'affiche, on l'a payée. Hein, on a pris une artiste toulousaine, Laura Deleuze, qui nous a fait une très très belle affiche. Et voilà, c'est quand même 1 500 €. Donc il y a des coûts qu'on est obligé d'avoir. Donc avant qu'on arrive au moment où on pourrait créer un salaire, je pense que c'est de l'utopie.
Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vos dons, ça monte à combien?
Sur 2025, on a fait 2 200 €, je crois, à l'année,
ouais,
sachant qu'on n'a pas fait l'année complète, et qu'il y a des dons qui sont pas des dons. C'est-à-dire que c'est des dépenses qu'on a fait, par exemple, que je fais moi en festival, et que l'association ne me rembourse pas. Donc dans la comptabilité, ça rentre comme un don que je fais à l'association.
Ok. Effectivement, mais c'est pas de là, c'est pas vraiment de l'argent dans la caisse, quoi.
Exactement.
Et donc quelles sont vos pistes? Je crois que vous aviez monté un financement participatif pour essayer de financer justement la chaîne.
Non, on n'a pas fait de financement participatif. On avait fait un jeu,
ouais.
Le Brise Neurone, qu'on pensait vendre, et on a fait 15 ventes, qui est très, très honorable. Donc l'idée, ça serait plutôt de vendre la licence du jeu, c'est-à-dire de vendre en gros le core game, puisque c'est un quiz, et de le vendre pour du serious gaming, c'est-à-dire des gens qui font pour le collège ou pour les lycées, etc., afin qu'ils puissent remplacer toute la partie quiz par les questions qui les intéressent. Quoi.
Super. Eh ben, on va rebondir sur ce que tu nous disais à propos de votre projet de festival. Dis-nous en plus.
Alors, c'est un festival, le premier des médias ludiques, puisque j'ai toujours à cœur de dire que ce qui rassemble tous les médias, c'est la reconnaissance, que ce soit la reconnaissance au niveau du secteur, puisqu'on va pas se mentir, même si on parle souvent des boîtes, etc. La réalité, c'est que la plupart des médias sont quand même pas très bien traités, aussi bien parfois de la part du public, mais surtout du secteur, hein, du secteur professionnel, qui les utilise que comme des hommes de paille ou des hommes sandwich. Voilà. Donc l'idée, c'est de remettre ce métier-là en avant, mais tous, hein, que ceux qui parlent que de l'objet commercial, mais aussi ceux qui parlent d'autres choses. C'est pas une question de rivalité ou de clivage. Au contraire, c'est le paysage entier qui compte. Donc de les remettre, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est long de créer une vidéo. Vous faites des podcasts, c'est long aussi. Il y a du montage, vous vous déplacez, il y a du matériel. Donc montrer au public ce que c'est, ramener les gens à se parler aussi. Parfois parce que on a tous des velléités en se disant, moi j'aime pas son contenu, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas aimer la personne. Donc se dire, on se retrouve et on discute, ça c'est cool aussi. Et donc ça sera organisé autour de 3 pôles. Le thème de l'année, ça va être le journalisme, forcément, les médias. Il y aura un pôle plutôt sur la scène, avec des activités. Il y a notamment Coco Chérie, dont le dernier jeu, Carte Aventura Exil. Donc il y aura une partie où il viendra expliquer avec la Ligue des Droits de l'Homme comment il a créé son jeu. Et puis la Ligue des Droits de l'Homme viendra nous apporter son regard sur la réalité des exilés. Et puis il y aura une deuxième animation où il fera jouer le jeu en live et les gens dans la salle pourront voter au fur et à mesure de l'histoire qu'il va conter lui-même pour voir le cheminement, etc. Il y aura d'autres animations dans ce genre-là. Il y a une exposition sur les jeux dont la thématique est le journalisme ou les médias. Il y a plus d'une cinquantaine de jeux qui existent. On les aura pas tous, hein, évidemment, parce qu'on a le premier, c'est 1930, donc je vous cache pas qu'il est pas trop accessible.
Difficile à trouver. Hein.
Voilà. Mais il y aura quand même l'explication des jeux, etc. Puis il y aura d'autres jeux. On espère avoir, toujours pareil, on en revient au budget, mais si on a le budget, il y aura reporter avec Stéphane Anquetil, donc qui est l'auteur du jeu, le journaliste éventuellement qui l'a aidé à créer le jeu, puisque c'est une demande de la RTBF, si je dis pas de bêtises dans ma mémoire, et c'est Helvétique, et donc il y a la partie française de Helvétique, dont j'ai oublié le nom de la personne et je m'en excuse, qui pourrait être présent aussi. Il pourrait aussi bien animer que être présent sur scène à un moment pour expliquer la démarche de comment on fait un jeu, comment on travaille un scénario avec un journaliste, etc.
Et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a été le déclic?
Parce qu'il fallait le faire. En fait, c'est juste que si on fait pas, ça n'existe pas. Donc on y va. J'avais 0 €. J'ai dit on le fait et on verra bien. Et puis je suis content d'avoir investi sur l'affiche parce que je pense que ça rend plus pro et plus ça crédibilise le festival. J'en parle et petit à petit ça convainc des gens de venir de par la manière dont on fait les choses. Je peux donner un exemple, il y aura des auteurs du Malte qui auront une table pour faire jouer leur proto. D'habitude c'est quelque chose qui se fait dans tous les festivals, hein, sauf que d'habitude les gens s'assoient, jouent et repartent, disent j'ai aimé, j'ai pas aimé, etc. Là on va leur expliquer ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire ce qu'on attend d'eux c'est de donner leurs émotions, qu'est-ce qu'ils ont ressenti en jouant à ce proto, qu'est-ce qui a fait dans le moment de la partie qu'ils ont ressenti ça, etc. Donc les amener à avoir un autre regard sur le jeu, moins commercial, moins consommateur, et plus on en revient à découvrir une œuvre.
Plus, exactement. Artistique.
Tout à fait.
Et du coup, c'est quoi l'idée du financement derrière? Parce que
alors l'idée du financement, ça serait d'avoir des partenaires. Éventuellement, j'ai fait une demande de, j'ai oublié le nom, mais de subvention, pardon. Donc voilà, ça serait ça, hein, d'avoir des partenaires qui nous soutiendraient, sachant qu'on est une association. On le répète toujours, hein, dit pour une entreprise, ça vous coûte rien, les gars. Si vous donnez 500, ça va vous coûter 200. Donc allez-y, quoi. Mais non, j'ai eu des réponses négatives, évidemment. D'abord, la première, c'est parce que c'est la première édition. Donc, ben, on verra. Si vous survivez une deuxième, on verra. Et la deuxième, c'est que nous, on fait pas de promotion. On fera jouer des jeux là-bas, mais notre but, c'est pas ça. C'est pas que les éditeurs, ils veulent bien nous envoyer une boîte, ça, c'est cool. Mais mettre de l'argent, investir dans quelque chose. Moi, j'ai appelé ça, c'est le côté, c'est l'effet Arte. C'est-à-dire que quand tu discutes avec les professionnels du monde du secteur, tout le monde te dit « Ah putain, du journalisme, qu'est-ce que ça serait bien ?»« Ah ça, ça serait bien d'avoir ce regard-là. » Mais une fois qu'il faut le financer et y souscrire, il n'y a plus personne. C'est comme Arte. Tout le monde dit que c'est bien, mais personne ne regarde. Ben, c'est un peu ça, quoi. Donc on essaye de convaincre, mais c'est difficile.
Parce que les partenaires que tu cherches, ils sont plutôt dans le milieu du jeu. T'as pas essayé, enfin, je sais pas, du côté de la mairie, j'en sais rien, département, région.
Ça, c'est la deuxième étape. Là, j'avais essayé d'abord le milieu du jeu, parce que, ben, je me suis dit quand même, ça pourrait être intéressant de, ne serait-ce qu'en termes de branding, tu vois, de se dire, je soutiens cet événement-là, sachant une fois de plus que ça leur coûte pas grand-chose. Alors, sur les petits éditeurs, attention, je dis pas, mais sur les plus gros, franchement, quand on voit qu'ils lâchent, 20 000 ou 30 000 balles, merci Asmodée pour le JP Explorer. Bref. Donc oui, il y a ça. La deuxième partie, oui, forcément, c'est local. Et donc là, maintenant, je vais démarcher les acteurs locaux qui, eux, peuvent avoir un retour direct, puisque c'est à Toulouse que l'événement se passe, quoi.
Il y a pas des organismes au niveau de, bah, au niveau de du journalisme, peut-être, qui existent?
Alors ça, je sais pas du tout. Je vais me rapprocher des journalistes, puisque parmi les invités, j'espère avoir des gens de Écran Large, peut-être Origami si j'ai de la chance, il y aura la Dépêche. Donc oui, l'idée aussi, ça va être ça, c'est de pouvoir parler de d'autres secteurs culturels et de voir leurs problématiques et leur manière de les résoudre, qui sont en fait assez liées aux nôtres, hein, que ce soit faire de la pub dans un média et de faire de la critique quand on est soi-même au sein de ce secteur, quoi.
Alors, je vais vous demander de vous projeter Punchboard dans 5 ans.
Alors, pareil, mais encore plus pauvre, sûrement.
C'est possible?
Oui.
Non, ça serait bien que on arrive pas là.
Nico,
on...
ouais.
Ouais. Ça serait bien qu'on arrive à fédérer un petit peu plus, notamment en termes de d'écriture et tout ça. C'est-à-dire qu'il y ait plus que nos deux visages. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Là, on a de la chance. On a des bénévoles qui nous aident pour le montage. Il y en a un qui a refait tout le graphisme du logo et tout ça. Mais on aimerait bien aussi avoir des partenaires qui viennent partager en fait leur propre vision de l'actualité ludique, tu vois. Donc avoir une rédaction, quelque chose. Dans 5 ans, on aimerait vraiment avoir une rédaction et peut-être commencer, même avant 5 ans, hein, à commencer à dégager des salaires de cela et d'avoir un média qui puisse survivre, tu vois.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Peut-être avant qu'on conclue cette interview, des choses sur lesquelles on serait pas passé.
Oui, alors Jérémy parlait du média, mais je veux dire du média, excuse-moi, du festival. Mais il y a aussi l'idée de faire de refaire un regroupement de médias ou d'une structure.
Oui, donc en fait c'est quelque chose qui existe déjà dans le secteur, c'est-à-dire que tous les corps de métier sont déjà regroupés, que ce soit les éditeurs, que ce soit les boutiques. Maintenant les illustrateurs, illustratrices, les auteurs, etc., etc. Donc il y a que les médias finalement qui sont pas regroupés. Et je pense que pour participer, on fait partie prenante de autant de ce qui a fait que le secteur a grandi, a émergé. On pense souvent à Trick Track, mais il faut avouer que sans ce média-là, je pense pas qu'on aurait une évolution aussi rapide, aussi forte. Donc il faut des médias. Il faut être à la table de tout ce qui se discute parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne jamais être invité nulle part, de ne jamais être considéré comme suffisamment important. Et la réponse qu'on m'a toujours faite quand je critique ça, hein, quand je dis, ben oui, vous dites que le monde du jeu s'est réuni pour en discuter, Donc ça s'appelle le groupement, je sais plus, c'est le GIJS.
Le groupement interprofessionnel du jeu de société, ça?
Voilà, c'est ça. La réponse qu'on m'a fait à chaque fois, pour me renvoyer dans les cordes, c'est oui, mais vous n'avez pas de structure entre vous, quoi. Donc l'idée, c'est de créer ça, de fédérer. On a déjà plusieurs personnes qui sont OK pour ça. On est en train de proposer à d'autres de rejoindre la discussion et de voir si ça les intéresse d'y participer ou pas. Ça va se faire dans les mois qui arrivent. On n'est plus dans le « ça pourrait, on aimerait ». On est dans « ça va se faire ». Et ça va nous permettre à ce moment-là de participer aux discussions. Juste pour ça, en fait, c'est l'idée de défendre notre petit bout de gras par moment ou...
Et donc l'idée, ce serait quoi, de une association d'associations, une fédération, un syndicat? Tu vois ça comment? Vous voyez ça comment?
Alors plutôt une association, un peu. L'idée, c'est plutôt d'être dans un côté d'entraide. Donc c'est si tu as un média et que t'as une structure associative, une structure professionnelle ou pas de structure, tu peux rejoindre l'association qui va avoir dans un but premier la reconnaissance auprès du secteur, c'est-à-dire de dire on existe, donc quand vous parlez entre vous, faut qu'on soit là aussi. Éventuellement, s'il y a des sujets à aborder, on en discute entre nous pour avoir une position officielle, puis on va la défendre. Et puis après, avoir aussi les capacités, comme on est fédéré, de pouvoir soit négocier des choses avec les festivals. Par exemple, on voit qu'il y a pas mal de problématiques avec certains festivals du côté pro, pour les médias. Mais aussi, par exemple, on parlait de la loi influenceur tout à l'heure, qui va encore évoluer très prochainement, y a beaucoup de gens qui savent pas forcément la législation. Par exemple, on parlait des boîtes gratuites, dans la législation, il faut les déclarer, enfin, il y a de la TVA, il y a des choses comme ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'influenceurs qui le sachent, en fait. Donc, parfois, on est hors la loi, mais sans le savoir. Donc là, on aurait une structure avec, pourquoi pas un avocat qu'on pourrait payer à un moment et dire, voilà toutes nos questions, on aurait une base de données, on aurait enfin des vraies réponses. Donc c'est plutôt un outil d'entraide, au début, et potentiellement à un moment, il y aura des dissensions, ce qui est normal dans toute activité, parce que, comme la WEJ ou autre, ils se sont pas serré la main dès le début, chacun a des envies et des attentes personnelles différentes, mais le système associatif nous permettra d'en discuter pour se mettre d'accord à un moment, et si on se met pas d'accord, on met de côté, c'est pas très grave.
Merci beaucoup à vous deux, Ludema et Nico, d'avoir participé à cette interview et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était fort intéressant. On va suivre de très près du coup ce projet de festival et d'association des médias ludiques. Voilà. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.